20h, 21h, Time Food spécial Cannes 2024 avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Eh oui, elle est partie où cette Coupe d'Afrique? Eh ben justement, 20h pétante, en ce mardi 30 janvier 2024, on est ensemble à la suite des informés d'Adil Farkan. On pourra retrouver Adil et toute son équipe dès demain à partir de 19h sur l'antenne de Beurre FM. Sans plus tarder, c'est Time Food spécial Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Et eux, au menu de cette émission, un vrai régal. Le Sénégal, c'est fini. Oui, je pense bien aux supporters du Sénégal. Ça sera pas un vrai régal, mais peut-être pour les Ivoiriens. En tout cas, aujourd'hui, ça a été vraiment, je crois, et tout au long de la soirée d'hier soir, eh ben vraiment une belle soirée, une longue soirée remplie de bonheur pour ces Ivoiriens. Le Maroc, attention au piège face justement au Bafana Bafana, et oui, les Africains de l'Afrique du Sud, sans oublier aussi les Gunners d'Arteta, les Gunners d'Arsenal. Et oui, ce soir, justement, dans ce fameux championnat de la Première Ligue, on reviendra, entre autres, sur le championnat, sur la Cup, avec Arsenal, qui veut revenir tout de même dans cette fameuse course à la Première Ligue. Le 01-53-48-3000, justement, c'est pour réagir avec toute l'équipe de Tamsport. D'ailleurs, le débat du jour, on vous l'expose, les choix tactiques hier soir, ou la malédiction pour le Sénégal, selon vous, avec un grand monsieur Alou Cissé, qui s'est fait vraiment remarquer par justement sa pugnacité, sa façon aussi, son élégance sur le banc de touche, qui a été remarqué et même adulé par pas mal de monde concernant cette planète du football et pas que. Allez, sans plus tarder, on va présenter la fine équipe qui m'accompagne ce soir.
Time Sport. Time Sport. Il est pour parler.
Allez, ce soir, on est en compagnie de Moha Le Duc. Bonsoir, Moha. Comment ça va?
Ça va très bien, Bilal. J'espère que tu vas bien. J'espère que tout le monde autour de la table va bien.
Oui, ça va.
Que nos auditeurs vont bien.
Ouais, les auditeurs, ils vont bien. Benji aussi va bien. Début de semaine pour toi aussi, Benji.
Bah ouais, première de la semaine. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde va très bien. Je suis en pleine forme et je passe une canne absolument formidable. Je me régale avec du beau football. Et juste, si tu me permets, Bilou, juste un petit mot pour une bonne cause qui va se passer bientôt. Voilà, donc c'est le 2 février 2024.
Ouais.
Voilà, donc c'est une course d'endurance qui va se passer pour les enfants dans le besoin. Voilà, donc
ça
s'appelle
bien.
Un volant pour Enzo. Donc vous avez toutes les informations sur le site internet Un volant pour Enzo. Si vous aimez le sport automobile ou si vous voulez soutenir les enfants dans le besoin, n'hésitez pas. C'est le 2 février 2024 au karting du Muret.
Donc ça c'est super. On retient bien le 2 février, c'est bien,
c'est ça. Un volant pour Enzo.
Merci pour l'info balancée sur l'antenne de Beurre FM. On est en compagnie de Mourad ce soir. Mourad, comment ça va? Il nous avait tant manqué, Mourad.
Bonsoir Bilal, bonsoir à tous, un plaisir d'être de retour.
Nous aussi Mourad, en plus au menu on a du football anglais ce soir aussi. Voilà.
Tu sais que
ça va être assez sympa.
Combien j'aime le football anglais, toujours un plaisir, même si là on met plus l'accent sur la Coupe d'Afrique des Nations.
C'est ça, la Coupe d'Afrique des Nations.
On est ouvert à toutes les horizons.
Oui, le Mali qui s'est imposé, donc c'est ça, le Mali qui est qualifié,
Mali qui est qualifié, c'était un peu prévisible.
On les a pas vus venir.
Ils sortent premiers de leur poule quand même.
Ouais.
C'est vrai qu'on les attendait pas en première
position.
C'est
la nation qui est passée.
C'est vrai qu'ils ont pas été exceptionnels.
Personne
à la dernière
canne.
C'est ça.
Ils sont bien là. Oui, Ryan.
Au Sénégal.
Il est avec nous ce soir. Bonsoir Ryan. Il était avec nous déjà hier.
Exactement. Bonsoir mon Bilal. Toujours un plaisir. De toute façon, tous les soirs, quand je suis autour de vous, quand je suis avec vous, quand je suis avec toi, mon Bilal, c'est toujours un kiff, toujours un plaisir.
Nous aussi. Ça respire le sud de la France. Et ça, c'est magnifique, vraiment. On passe le bonsoir aussi à tous les Lillois, les Lilloises aussi. On va s'attarder sur le premier sujet de cette émission. Avant ça, un petit clin d'œil aussi à la réalisation avec Solal. Bonsoir Solal.
Bonasera à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Des têtes que je revois et d'autres que je redécouvre. Franchement, on est tous heureux d'être sur Beurre FM, et les auditeurs et auditrices aussi. Cher Bilal, de quoi va-t-on parler aujourd'hui et maintenant, dis-moi tout.
On va parler de quoi? On va parler justement du Sénégal de Sadio Mané. Et oui, le Sénégal avec Mourad sur une élégance de son coach. Et Cissé a pu malheureusement déclencher une légèreté fatale à son 11. Et oui, son 11 type. On a critiqué Aliou Cissé peut-être sur sa façon d'avoir donné cet impact à son équipe, à son 11 type. Justement, peut-être marqué trop tôt et pas après enchaîner Mourad. Il a été beaucoup décrié depuis hier soir, en tout cas.
Oui, effectivement, c'est la grille de lecture de beaucoup. Ils disent que, effectivement, la sérénité et l'élégance peut, aurait pu avoir joué des tours au Sénégal. Mais moi, je pense que quand une équipe marque trop tôt, généralement, c'est à double tranchant.
Ouais.
Quand on analyse le match, on voit que les entrées, on voit que ses choix tactiques, son coaching auraient pu être bénéfiques parce qu'il fait rentrer quand même Nicolas Jackson qui est plus à présenter à 1-0. Donc c'est tout à fait naturel en fait de reculer quand tu mènes 1-0, qu'on est à un huitième de finale de Coupe d'Afrique des Nations. Et sur cette Coupe d'Afrique, en fait, c'est assez original parce que le Sénégal affronte en fait une Côte d'Ivoire qui vient de changer de coach en cours de compétition. Et ça, c'est assez original. Donc forcément en face, donc je pense que la pression déjà du tenant du titre, elle est supérieure à la pression du pays organisateur, la Côte d'Ivoire, parce que on n'a plus rien à attendre de la Côte d'Ivoire. Ils ont fini, je crois, dernier des meilleurs troisièmes, c'est ça. Donc ils sont qualifiés un peu au forcing. Donc voilà, donc c'était tout à fait normal. Moi, je le redoutais. Je pense qu'il l'a anticipé. On témoigne ses coachings, mais il fallait tourner la page Jean-Louis Gasset. Et c'est justement, je pense, que Emers Faé a su tirer son épingle du jeu avec le beau coaching, en faisant rentrer Adingra, en faisant rentrer Sébastien Haller, en intronisant Seri aussi, qui a été exceptionnel hier. Donc voilà, après, pour parler de la personnalité de Aliou Cissé, certains disent, voilà, élégant, etc. C'est ce qu'il a fait gagner ces dernières années. En 2017, fait une finale de Cannes. En 2019, il en fait une aussi. Il gagne en 2022. Et c'est toujours avec cette classe, avec cette sérénité, aussi avec cette élégance. Il a été bon perdant, même s'il a critiqué un peu la VAR. Alors que, pour moi, l'arbitrage était catastrophique des deux côtés. Ouais. Donc voilà, donc, c'est pas une fin de cycle. Je pense qu'ils vont pouvoir au moins, aller au Maroc à la Cannes 2025 avec l'ossature dont ils disposent actuellement. Peut-être un point d'interrogation sur Sadio Mané. Mais voilà. Je pense que c'est le parcours habituel d'un coach.
Je pense que pour le coup, pour ceux qui ont vu le match, ça a été compliqué. En tout cas, dès le début de la première partie, de la première mi-temps, les émotions ont pris le dessus, en tout cas, pour ma part, du côté des Sénégalais. Ouais. Et je pense que c'est ce qui les a fait surprendre aussi, parce que les Ivoiriens sont restés concentrés, sont restés focus pendant tout le match, tout simplement. Et c'est vrai qu'il y avait des erreurs, on va dire, d'arbitrage au début, qui laissait paraître que le Sénégal allait être gagnant au début, surtout au vu de la faute de Sadio Mané sur Sangaré, une faute qui pour moi personnellement méritait amplement un rouge.
Clairement,
ouais. Et je vois parce que je vous dis ça parce que j'ai vu un peu la réaction de Crépin Diatta, le latéral de Monaco, qui a dit que l'arbitre a été catastrophique et que voilà. Sachant toutes ces erreurs d'arbitrage qui ont été en faveur en tout cas du Sénégal en début de match. Après, comme je vous l'ai dit, pour ma part en tout cas, la Côte d'Ivoire est restée concentrée du début à la fin. Voilà, c'est-à-dire que mine de rien, ça a été compliqué, ça a été un match encore une fois à haute intensité.
Ouais.
Et voilà, c'est pour moi c'est mérité pour les Ivoiriens.
C'est très largement mérité. Jean-Michel Seri représentait vraiment, en fait, symboliser cette équipe de Côte d'Ivoire, une maîtrise au milieu de terrain qui était sublime à mes yeux. Mais c'est pas tant que ça les soucis tactiques ou les critiques qu'on met sur Aliou Cissé. On le voit au début des prolongations, on a une caméra rapprochée où on l'entend dire essayer d'aller jouer vers Sadio, aller jouer vers Sadio. Il n'a jamais poussé son équipe à les reculer ou la jouer défensive. Comme l'a dit Mourad, c'est quelque chose de totalement naturel dans le football. Quand on a quelque chose à préserver, à garder, on se recroqueville sur soi-même et tout. C'est là où la Côte d'Ivoire a été intelligente. La Côte d'Ivoire, en plus d'avoir été concentrée tout le match, elle avait la dalle, la Côte d'Ivoire.
Ouais.
Comme l'a dit
ils en voulaient.
Franck Caissier après le match, on est des revenants et on ne peut pas tuer un revenant. La Côte d'Ivoire a été enterrée plus bas que terre en perdant 4-0 dans son propre stade.
Bien sûr.
Quand tu vis de telles choses et que tu es concentré, le choix tactique, l'entraîneur de la Côte d'Ivoire qui sort Seko Fofana, qui est techniquement ton meilleur joueur.
L'équipe. Le joueur qui te permet de faire ce lien entre
l'attaque et la défense,
entre ton milieu et
moment,
ton attaque.
Comptait plus sur ses frappes pour marquer le premier but que sur. Sur Crasso quand même.
Puis c'est quand même ce joueur qui arrive à te casser des lignes vraiment de manière extrêmement facile. Mais pour revenir sur le match, moi où j'ajouterais peut-être un petit bémol,
je trouve que
dans son approche tactique du match, il n'y a rien à redire sur Aliou Cissé. Il arrive avec énormément d'engagement. Il sait que c'est quand même une équipe qui, certes, est une équipe qui est très revancharde, qui n'a rien à perdre, mais ça reste une équipe très malade, la Côte d'Ivoire. Et donc, tu as ce besoin d'aller chercher très haut pour les faire douter rapidement et marquer très vite. C'est ce qui se passe. Et selon moi, certes, si même naturellement tes joueurs reculent, tu as ce besoin quand tu es le Sénégal et que tu es l'équipe qui est censée être la meilleure sur le terrain et peut-être la meilleure sur le papier avec l'équipe du Maroc, d'aller mettre ce deuxième but pour te mettre à l'abri plutôt que de redescendre. Et je pense que c'est l'envie qu'ils avaient au début du match. Et j'ai l'impression, après je me trompe peut-être totalement, que cette faute de Sadio Mané qui n'est pas sanctionnée d'un carton rouge les a peut-être freinés aussi dans leur élan en disant ok, on a vu ce qui s'est passé sur les autres matchs de la CAN, on voit comment se passe cette CAN, on va pas faire une erreur de débutant de mettre encore trop d'engagement, de se prendre un carton rouge et de donner le moyen à la Côte d'Ivoire potentiellement de revenir plus facilement dans ce match et leur donner l'opportunité, leur donner les cartouches pour revenir sur le terrain. Et c'est là où moi je me dis que tu peux faire ça pendant une partie de la rencontre, mais derrière, à la mi-temps, tu dois revenir avec d'autres intentions et revenir avec les mêmes intentions que tu avais mis en début de match. Et cependant, ça n'a pas été fait. Donc là, c'est la Côte d'Ivoire qui a pu étaler son jeu et qui a pu être étincelant. Parce que pour le coup, il faut le dire que la Côte d'Ivoire, moi je les avais pas vus. Enfin, je pensais pas qu'ils étaient capables de produire ce jeu-là au milieu de terrain, d'avoir le contrôle du ballon et de faire douter cette équipe du Sénégal comme ils l'ont fait.
Je crois que ça a juste fait douter. Hein.
Et voilà, mais ça a vraiment fait douter. Ouais. Et c'est là où ils ont pu permettre de mettre la pression et de laisser cette équipe du Sénégal reculer, et le bloc qui ne faisait que reculer, alors que justement
ils ont quand même Benji.
Il y a des mots clés très importants prononcés par Benjamin, c'est alors, erreur justement. De débutant et milieu terrain.
Erreur.
Là où débutant. A été naïf justement à Lucissé, ben sur ces aspects-là, erreur de débutant parce qu'en face, t'as l'intronisation de Seri qui amène de l'expérience, et en face, t'as Pape Matar Sarr et t'as Lamine Camara qui sont exceptionnels, mais qui sont peut-être un peu trop, débutants sur ce type de compétition. Donc là, on sait très bien que c'est pas sur les qualités techniques, on sait très bien que c'est pas sur la possession, que les équipes gagnent aujourd'hui dans cette Coupe d'Afrique, mais c'est plutôt par ce supplément d'âme, l'agressivité, la fraîcheur physique, la roublardise, l'expérience, et on voit qu'Emers Faye a joué là-dessus. Donc moi c'est sur cet aspect là au milieu de terrain. Est-ce que je reproche à Odissé, parce que c'est aussi important.
Alors c'est quoi Mourad?
Parce qu'il y a quelques reproches, on va pas dire que c'est naturel d'un match.
Oui.
C'est que j'ai l'impression que cette équipe du Sénégal, en fait, on n'a pas vu le quart de son potentiel. Et c'est là où je suis déçu. C'est parce que j'en entendais beaucoup, tellement de cette équipe du Sénégal, qu'on n'a pas vu Liman Ndiaye, on n'a pas vu Nicolas Jackson.
On en parlait avec Benji ce matin,
ce
il me disait
terrain,
ça
peut-être
aussi.
Un peu trop jeune.
C'est
alors peut-être qu'il prépare la CAN 2025.
Il fallait le dire. Tu compares le jeu du Sénégal avec le jeu qui face à la Côte d'Ivoire, ça n'a rien à voir. On a l'impression d'avoir une équipe du Sénégal qui jouait avec le frein à main et qui avait peur de faire du coup cette erreur que beaucoup d'équipes ont.
C'est le manque d'expérience
que beaucoup de gros ont fait dans cette CAN et qui leur a coûté des points en phase de poule, qui leur ont même pu coûter une qualification lors de ces phases d'élimination directe.
C'est
une sorte de peur de gagner peut-être qui s'est traduite par une façon de reculer.
On est tombé sur un match d'une nation qui a eu la dalle, et on le voit avec l'image, je sais pas si vous vous rappelez de cette image là de Sangaré qui sort sur civière. Pour moi c'est ça l'exemple aussi, c'est un peu l'exemple. C'est à dire que on croit que Sangaré est mort et que c'est foutu, qu'il va se faire remplacer, et au final il revient. Le mec il sort sur civière et il revient après sur le terrain, parce que voilà, et apparemment c'était
ça fait partie du jeu vis-à-vis des arbitres.
Non, mais ce que je veux dire c'est ça, c'est vraiment faut comprendre le
qui a été catastrophique l'arbitrage d'ailleurs au passage.
Ce que je veux essayer de faire comprendre, c'est que alors, c'est un peu comme l'exemple de la Côte d'Ivoire. On pensait que la nation était morte face à la Namibie quand ils sont pris 4-0. Tout le monde, personne n'aurait cru qu'ils se seraient retrouvés en quart de finale. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que, et en face, on est tombé sur un effectif avec un entraîneur, malheureusement, qui se sont reposés sur des individualités. Voilà, sur leurs stars, on va dire entre guillemets, que je rappelle, qui sont Sadio Mané, qui est Sadio Mané, pardon.
Et qui n'était pas à son meilleur niveau hier soir.
Et qui n'était pas du tout à son meilleur niveau.
Je trouve qu'il a fait un très bon match hier, Sadio Mané. Hein.
Ouais. Il aurait pu faire mieux. Moi, je pense qu'il aurait pu faire mieux.
Bon match.
Autant décisif qu'il a.
Et encore une fois, là où je rejoins Benji, pour moi, s'il a. Je pense que c'est pas sa meilleure CAN, on va pas se mentir. Mais c'est surtout parce que le mec est parti en Arabie Saoudite et ça a freiné. C'est un peu peu comme c'est-à-dire que ça a freiné son rythme de jeu.
Ça a freiné Seko Fofana, en tout cas, d'être.
Oui, il y a des joueurs comme ça. Il y a des joueurs comme ça.
Diaboliser le championnat saoudien. Au contraire, je pense que.
Non, mais c'est pas diaboliser que de dire que t'as pas le même rythme, tu vois, qu'en Europe.
En fait, il y a des parallèles aussi sur les conditions climatiques.
Ah, mais
c'est. Évolue en Arabie Saoudite. Riyad Mahrez l'avait dit. Il avait dit qu'il n'y a pas beaucoup de dépaysement en termes de climat, en termes de taux d'humidité, en termes de chaleur entre l'Arabie Saoudite et la Côte d'Ivoire à 14h par exemple. Donc je pense qu'au contraire c'est même bénéfique.
Non, je parle pas du climat.
Quand t'évolues,
je parle pas du climat moi.
Je
parle du rythme de jeu, c'est-à-dire qu'à un moment donné,
je fais partie de ceux qui pensent que la Saudi League est même potentiellement supérieure à la Ligue 1 par exemple.
Bien sûr,
j'ai
pas
dit ça.
Les têtes de gondole de l'Arabie Saoudite,
est-ce
qu'il y a des Bobby Firmino, est-ce qu'il y a des
mais ça c'est parce qu'il y a pas l'argent,
est-ce qu'il y a des Karim Benzema,
ne tombe pas dans
le N'Golo Kanté, est-ce qu'il y a des
Ah ben voilà Mourad, le débat est lancé. On rappelle Mourad que le Mali ira en quart de finale et le Mali a remporté son match à 18h face à la j'ai oublié la nation, excusez-moi. Non, c'est vrai. Non, face au Burkina, excusez-moi. Face au Burkina, non, le Mali, voilà. Face au Burkina, 2-1. On le rappelle, le score si vous venez juste de nous rejoindre sur l'antenne de Beurre FM.
Je connais le film. Est-ce que c'est Bertrand Traoré qui met le but du.
Oui, pour le Burkina. C'est ça. Moral, c'est
j'ai pas regardé le match.
Non, c'est ça.
C'était écrit. Tellement prévisible.
Pour les Burkinabés, c'était ça. En tout cas, on va revenir avec le Maroc qui affronte ce soir 21h l'Afrique du Sud, sans oublier aussi Kevin Deco, le monsieur handball. À de suite.
Time Foot spécial Cannes 2024 revient dans un instant. Beurre FM, 20h, 21h, Time Foot spécial Cannes 2024 avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM en ce mardi soir, soir de match de Coupe d'Afrique des Nations, on le rappelle. 8e de finale, c'est le Maroc qui rencontrera justement l'Afrique du Sud, 21h, c'est l'avant-match sur l'antenne de Beurre FM. Avec qui sur le plateau? Il y a Mourad, tranquillement, il y a Ryan juste en face, on peut retrouver Benji, sans oublier Moha, le duc de Boulogne, c'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. Ah bah oui, moi je sais pas, on me dit, il y a un duc là-bas. Avec toi. Ah bah oui.
Ah bah France, je suis duc de quelque chose, mais pas de Boulogne.
Le duc de France,
c'est
Boulogne.
Ouais.
Il est déjà prêt, le duc de Boulogne. C'est ça, on va rester tranquille avec lui. Ouais. Ah ouais, tout doux. On l'aime bien, nous. Hein. Moi, jamais eu de problème, même Solal, il aime bien.
Hein. T'aimes bien Solal?
Il aime beaucoup Solal. Le 01 53 48 3000, place à l'invité de ce soir.
Thanks, man. The special one.
On est avec Monsieur Deco, Kevin Deco. Et oui, ancien sélectionneur passé par justement les équipes nationales féminines, que ça soit en Guinée, au Maroc aussi. Eh oui, les Lions de l'Atlas, si je peux me permettre. Sans oublier aussi la fédération tunisienne d'handball, le championnat africain. Qui s'est déroulé justement, qui vient de se terminer, qui a vu les pharaons d'Égypte le remporter face au Fennec algérien en finale de ce championnat d'Afrique d'handball. Mais c'est vrai que ce soir on aimerait un peu revenir avec vous Kevin concernant cette évolution du handball sur le sol africain mais aussi de ce sport carrément. Bonsoir Kevin.
Bonsoir Beurre FM, bonsoir Bilal et bonsoir à tous les invités sur le plateau.
Bonsoir.
Kevin, pour commencer cette interview avec nous, avec les auditrices, les auditeurs de Beurre FM, comment est le niveau de ce handball au niveau africain aujourd'hui? Vous qui l'avez même pas mal connu, parce qu'aujourd'hui...
Oui, effectivement, j'ai un peu baroudé, on va dire ça. Effectivement, ce handball a vraiment évolué et on l'a vu d'ailleurs sur cette Coupe d'Afrique. Et d'ailleurs, l'Égypte est le plus beau modèle, puisque au niveau mondial, et la 5e nation au niveau mondial. Donc, ça évolue à grande vitesse. Et donc, il y a des belles surprises. Il y a eu des très belles surprises pendant cette CAN. Donc, si on va échanger au-dessus, je pourrais vous dire justement les pays émergents.
Les pays émergents, justement. On en découvre. Avant de revenir peut-être sur le vieux continent, en Europe. Non, c'est vrai. On parlera à la fin de nos Français champions d'Europe. Faut le rappeler aussi, hein. Justement, ce niveau africain, Kevin.
Déjà, il y a les grandes nations. Hein. On va parler de l'Algérie qui a fait son retour. Depuis 2014, l'Algérie était un peu en défaillance. Ils avaient gagné chez eux en 2014, et là, ils reviennent en finale. Honnêtement, ils m'ont surpris. Ils m'ont surpris dans le beau jeu qu'ils ont proposé pendant cette CAN. Ils arrivent en finale, ils perdent contre les pharaons, mais les pharaons restent le modèle, comme je disais, africain. Derrière, il y a mon bébé, on va en parler, c'est la Guinée, qui va participer à son premier mondial, qui s'est qualifié. Donc c'est un pays qui s'est construit en 10 ans. Quand j'ai récupéré la nation, on était 37e nation d'Afrique. Actuellement, on est la 5e, donc qualifié pour ce premier mondial. J'en suis fier, même si à ce jour, maintenant, c'est plus moi, parce que depuis 3-4 mois, j'étais promu à la tête de la sélection tunisienne au niveau féminin. Mais je garde quand même de grosses attaches puisque c'est mon adjoint qui a pris la suite et voilà, le plus beau modèle c'est qu'ils ont réussi à se qualifier au mondial avec des joueurs que j'ai connus depuis 5-6 ans. C'est une belle réussite. Après il y a les Marocains. Les Marocains qui malheureusement se qualifient pas au mondial, ils finissent 7e, ils sont en chute libre. Il y a le Cap-Vert qui est une belle surprise aussi, qui va participer au mondial, qui finit 4e. Et les troisièmes, c'est les Tunisiens. Voilà, dans l'ordre des mondialistes.
Ah ben justement, c'est bien, parce qu'avec Kevin, on peut voir aussi, il y a une certaine corrélation, le Cap-Vert avec le football, pareil.
Bien sûr. Mais oui, les pays émergents du football dans le
c'est
sport.
Ça, enfin, c'est ça aussi.
On sent qu'il y a des pays africains qui disent peut-être un petit peu plus aussi sur les sports que d'autres, ou en tout cas du moins sur les sports collectifs, et peut-être d'autres sur les sports peut-être plus individuels. Et ça se ressent avec les résultats que Kevin vient de nous donner. Mais moi, ce qui m'intéresserait de savoir, Kevin, c'est toi du coup qui est expert du coup du hand africain et je pense du hand en règle générale, évidemment. Quelles sont les chances? Donc l'Égypte, on connaît, on sait que c'est une nation forte du hand mondial, mais une équipe comme l'Algérie, du coup, comme la Tunisie sur un mondial, est-ce que jusqu'où tu pourrais voir ces équipes monter?
Alors ça évolue. C'est plus la grande Tunisie qu'on a connue avec les Issam Tej. Je ne sais pas s'il y a des spécialistes du hand sur le plateau, mais comme Ayman, il y avait des grands joueurs il y a quelques années. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, il y a l'Égypte et le reste en Afrique. L'Égypte peut rivaliser avec les grandes équipes continentales. Les autres, c'est, on va dire, en deuxième division. C'est compliqué, certes, pour plein de critères, c'est que ça soit au niveau organisationnel, au niveau financier. Maintenant, sur un match, tout est possible. D'ailleurs, sur la dernière Coupe du Monde, l'Algérie n'a perdu que d'un but contre la France. Voilà. Donc, il y a la fierté quand même sur certains matchs où les équipes africaines peuvent réaliser des coups. Mais sur la rigueur, sur la longueur d'une compétition qui demande beaucoup d'énergie et beaucoup de rotation, donc des joueurs de qualité, c'est un peu plus compliqué. Et ça, c'est une réalité. Maintenant, l'Égypte a des gros, gros moyens. Donc c'est pour ça qu'ils rivalisent.
Ouais. On poursuit peut-être avec Mohaï aussi, Mourad.
Oui,
Kevin Deco, notre invité.
J'ai une question pour toi. Tu parles beaucoup de l'Égypte comme cette espèce de grand phare d'Alexandrie, si je peux me permettre, du hand africain. Mais qu'est-ce que l'Égypte a de plus? Les infrastructures, le fait... Aujourd'hui, quand je pense au hand, on pense à ces grandes nations européennes phares qui ont cette espèce d'ADN hand. Je pense au Danemark. Qui connaît le hand comme vraiment sport national. Qu'est-ce qui manque à ces nations africaines vraiment pour, de une, rivaliser avec l'Égypte qui est déjà en place, comme tu le dis, mais peut-être dans un moyen long terme rivaliser avec des nations européennes comme les experts ou comme le Danemark?
Je vais vous donner déjà un petit secret, hein. Le président de l'IHF, donc l'équivalent de la FIFA, c'est un Égyptien, Hassan Moustapha, qui a donné le nom à la structure qui gère tout le handball égyptien. Donc ils ont une structure qui est immense, un Bercy, je dirais. Avec moi, j'ai passé justement mes licences professionnelles là-bas, d'entraîneur. Et donc, sur place, ils ont deux terrains de handball avec un énorme gymnase en termes de capacité, salle de muscu, tout ce qui est récupération, cryo et tout. Ils sont, au niveau de la technologie, de la récupération, de la préparation physique, ils sont au top. Voilà la différence. Et c'est l'armée qui finance. Donc, il y a beaucoup d'argent au niveau du ministère. Donc, je peux vous dire que l'argent, à un moment, il fait la différence.
On poursuit. Avant de terminer cette interview avec Kevin Deco avec nous ce soir pour la première fois sur l'antenne de Beurre FM, Mourad, une réaction avec Kevin.
Oui, donc justement, il parlait des pays émergents autour du handball. Moi, je pense que pour accompagner l'émergence de certains pays, il faudrait s'identifier à une star. On l'a vu dans d'autres sports. Voilà, c'est la starification du sport. On voit que ça participe beaucoup à l'essor du sport en lui-même. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable d'identifier, je ne sais pas, le Ludovic Fabregas du handball africain, par exemple, qui a fait un euro de zinzin, qui était des deux côtés du terrain, peut-être meilleur pivot du tournoi. Est-ce qu'on est capable de... Est-ce qu'aujourd'hui, il serait capable de nous nommer une future pépite du handball africain?
Alors, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Je vais être un peu chauviniste. Déjà, mon gardien, Ruben Spier, qui joue à Tremblay, dans le secteur, donc un bon niveau en France, a été élu meilleur gardien. Donc on en reparlera déjà de ce nom-là, retenez-le bien. Après, il y a Darmoul, malheureusement, qui était blessé, mais qui doit jouer avec la Tunisie. C'est un demi-centre qui est en Allemagne. Il est exceptionnel aussi. Et on va dire, avec un physique un peu plus atypique, tout le monde a dû le voir, hein, c'est passé partout, Gauthier Mvovic, qui est passé un peu partout. Dans les médias, ils appelaient le Tchekeloni du handball. Donc vous avez dû le voir, que ce soit dans les réseaux sociaux, etc. Après, c'est pour d'autres, on va dire, d'autres manières, mais ça a pu un peu starifier le handball, en tout cas en parler, du moins, parce que je pense que vous avez dû voir son profil, qui était atypique.
Exactement, c'est un peu comme Wembanyama avec le basket, par exemple.
Laissons le temps à Wembanyama, justement, on revient sur le vieux continent, en Europe, avec cette équipe de France d'handball. Un mot pour la fin, Kevin, bravo. Ouais, prendre exemple peut-être encore sur cette sélection française, mais aussi sur ces pays nordiques.
Oui, bah, c'est exceptionnel. De toute manière, c'est le sport le plus titré. Je pense que même si en France, bah, vous avez vu sur les dernières compétitions, on a mis l'équipe de France féminine est quand même championne du monde et on a réussi à mettre une mi-temps sur TF1 et une autre sur une chaîne de la TNT. Donc en France, je pense qu'on valorise pas encore assez le handball, malgré que là on a passé la finale, en sachant que c'est le sport le plus titré. Hein. Bien sûr que on est tous fiers parce que c'est un sport qui ramène des titres. Ils se donnent les moyens. Surtout en termes de formation, il y a beaucoup de pôles de formation en France. Il y a une super détection. C'est un travail en profondeur. Hein. C'est pas que que des joueurs qui viennent de l'extérieur. Tous ces joueurs-là, ils ont été formés sur le territoire. Et honnêtement, voilà, c'est ça qui fait la différence. Bah, c'est les petites mains du handball.
Mourad.
Non, je voulais aussi
dernière
passer.
Question. Alors.
Parce que moi, je suis originaire de la ville de Metz. Et la SPTT Metz est aussi une grande équipe du handball féminin en France.
Et le sait, Kevin.
Donc, et j'ai des amis du côté du club. Donc. S'il nous écoute, ben j'aimerais les saluer.
Metz,
Je pense qu'il pourra en témoigner.
Non, mais je rejoins Metz, Metz est un club historique en France, c'est vrai.
Bien sûr. On oublie beaucoup Metz, mais attention, Metz, hein, le seul club français à avoir remporté un match, je crois, du côté
du Camp Nou.
Ça fait longtemps, mais il faut le dire. Ah, c'est vrai, quand même.
C'était les villes sportives françaises par excellence.
On a beaucoup mangé sur ce match-là, à l'époque de Jules Boukandé, etc.
Eh oui, mais quand même. En tout cas, nous, on a pris une leçon, une masterclass ce soir en la personne de vous, Kevin. Et ça sera vraiment très sympa de vous avoir dans ce studio, hein, de Beur FM. On remercie aussi Walid qui se reconnaîtra, hein, et qui est à l'écoute aussi de. Hein, voilà un gros big up à Walid qui est à l'écoute de Beur FM. Nous on va poursuivre avec le Maroc et on vous souhaite une belle soirée et un bon match,
Merci
Kevin.
Merci à vous. Merci. Amusez-vous bien.
Merci Kevin. Merci beaucoup, Kevin. Merci Kevin. Allez, place aux Marocains.
Time Sport. La parole des sociaux.
21h, justement, c'est le Maroc qui rencontrera en huitième de finale l'Afrique du Sud, ces Marocains. Attention à ce piège. Eh oui, on voit ces petites nations sortir de c'est pas où, mais là, c'est vrai que les Marocains, bon, c'est vraiment le prétendant avec le Sénégal, voire aussi la Côte d'Ivoire.
Ah, le Sénégal,
Benji. Allez, vas-y, Benji, là, c'est chaud.
Bah, non, mais c'est vrai que maintenant, avec le Sénégal, c'est plus compliqué, mais je comprends dans le sens où tu veux les comparer, parce que c'est, selon moi, les deux équipes qui m'ont fait la meilleure impression sur ces phases de poule. Non, mais en termes d'équipes qu'on attendait et qui ont confirmé dans ce sens-là.
Alors,
pas d'équipes que tu ne voyais pas venir ou d'équipes que tu mettais dans un deuxième ou dans un troisième chapeau. Et j'ai trouvé le Maroc serein dans le sens où pour moi les seuls points qu'il lâche est dans un match qui se joue pas uniquement sur le terrain face à la RDC du Congo. Et donc pour moi c'est une équipe que je vois arriver en confiance, mais comme je voyais le Sénégal, donc j'ai envie de dire attention aux hommes de Walid Regragui, de pas faire la même erreur peut-être un petit peu de suffisance qu'ont pu faire preuve les hommes d'Aliou Cissé et d'arriver à produire le jeu qui est le leur dans le sens où à réussir à avoir cette possession de balle, de faire jouer, de faire vivre le ballon et d'empêcher de neutraliser chaque contre-attaque que vont essayer de mettre en place l'équipe d'Afrique du Sud qui selon moi ont une carte à jouer dans le sens où s'ils arrivent à maîtriser peut-être un ou deux joueurs précis du système de Regragui qui est très bien huilé, ils peuvent réussir à la faire douter.
Attention,
et
ça
on
va
voit
faire.
Que depuis le début de cette CAN, dès qu'un gros doute les gros reculent.
Non, ouais, c'est
et
ça.
Les gros peuvent se faire punir plus facilement.
Alors, attention, ils ont dû voir le match d'hier avec la Maroc. La compo, vas-y, tu peux la balancer. Mourad, il va réagir aussi.
Voilà, donc du côté du Maroc, on a Bonou, bien sûr, sans surprise.
Ouais, le portier marocain.
Le portier marocain, la charnière Saïs Aguerd. À gauche, Mazraoui. À droite, Hakimi. Amala, Amrabat et Unai seront tous les trois dans le milieu, ouais. Dans le milieu central. Et en attaque, il y aura Ennesseri en pointe avec Ezre. Abdé Ezaoui et Amin Adli sur le côté gauche. Voilà. Donc c'est sur un 4-3-3. Après, 4-3-3, pour le coup, ouais. Moi j'ai envie de vous dire, faut faire super gaffe aux hommes.
Attention,
de Hugo Broos. Voilà, les ouais. hommes de Hugo Broos, l'entraîneur de l'Afrique du Sud. Voilà, comme la,
moi, je
comme
suis
la
sérieux quand
dit,
je parle de piège. Hein. Je suis très sérieux.
Moi aussi, hein, moi pour, aussi pour les Marocains. Et comme l'a bien dit Benji, c'est sûr qu'aujourd'hui, on attendait beaucoup, par exemple, oui. du Sénégal. Aujourd'hui, on en attend beaucoup Sénégal aussi, on en attend là. Davantage de l'équipe du Maroc. Après, voilà, j'ai envie de dire, c'est une compétition comme une autre, c'est-à-dire qu'il y a énormément de surprises et en un match, il peut se passer énormément de choses. Donc ce soir, moi, je pense que ça va être un très très beau match à suivre d'ailleurs, mais il faut faire très attention aux Africains.
Allez, Mourad avec Moha avant la dernière pause.
Merci.
Alors justement, Moha.
Moi, je pense que ce serait une plus grosse surprise, une plus grosse déception de voir le Maroc se faire éliminer ce soir que pour le Sénégal.
Carrément.
Hier. Oui, je suis d'accord. Parce que le Sénégal affronte la Côte d'Ivoire à ouais. domicile, revancharde.
Oui.
Là, sans manquer de respect à l'Afrique du Sud, il
ouais.
N'y a pas de Tchabalalala pour les sauver
ouais.
cette fois, je pense.
Ouais.
Mais en dehors de l'absence de Bouffal qui est blessé.
Ouais.
Là, pour moi, je pense que ça peut être un facteur un peu déterminant.
Ziyech sera au rendez-vous ?
Je pense. Ah oui. Mais Boufal, c'est un peu plus un ailier, un peu plus virevoltant que Ziyech, qui ouais. est plus dans la construction. Même si, pour moi, techniquement, Boufal, c'est ce que représente le mieux le Maroc. C'est trop technique, c'est rapide, ça va ouais. vite. Et si on a une espèce d'Afrique du Sud qui joue le bloc bas, qui la joue défensive et qui tend un piège au Maroc, c'est des joueurs qui peuvent te dynamiter vraiment des défenses. Je vois pas Ziyech vraiment face à un gros bloc bas d'Afrique du Sud permettre de décanter la situation.
Par une frappe de loin,
de l'Atlas, peut-être à la limite.
Et encore, c'est
mais, pour moi, ce serait une plus grosse déception que le Sénégal.
Je suis d'accord. On va revenir avec Mourad, c'est promis. Concernant les Marocains, on n'oublie pas aussi le match Nottingham Forest face à Arsenal vient de débuter. Ça fera plaisir à Benji, un grand amoureux aussi de ce football anglais qui n'est autre que Mourad. On a Lionel qui nous écoute sur le périphérique parisien et qui nous dit eh ben ça roule bien pour le moment. Les agriculteurs, je les vois pas. On a Sahden avec sa femme et son fils, justement, voilà, qui écoute aussi Beurre FM. Vive le Maroc, Sahden, pas Rabat. Sahden, pourquoi pas, on sait pas. En tout cas, oui, on a eu pas mal de joueurs internationaux qui nous ont écoutés depuis cette Coupe d'Afrique. Hein. Voilà, on va pas les éliminer, mais qui étaient vraiment à l'écoute de cette émission. Un grand monsieur, bien sûr, Mourad. Et on a aussi Nassera avec Karima qui nous écoute. Allez, à de suite.
Time Foot spécial Cannes 2024 revient dans un instant. Beurre FM, 20h, 21h. Time Foot spécial Cannes 2024 avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et il n'y a pas que Bilal, il y a aussi Moha, il y a Ryan, sans oublier Benji et Mourad. On revient à Mourad avec le dernier sujet de cette émission. On va aborder aussi, on n'oublie pas, les Gunners d'Arsenal face à Tottenham avec Arteta. Mais place. Oui, oui, justement. Mais on va parler aussi des Marocains.
Oui, non, bien sûr. Non, mais t'as dit Tottenham, je pense que.
Nottingham. C'est Nottingham Forest, justement. De Champions League. Eh oui, dans les années 70. Eh oui. Eh ben, ils en ont plus que tous les clubs français. C'est fou. Eh ben oui, là, ça nous fait rire à tous, mais voilà, c'est ouais, tristesse. Eh ben ouais, c'est vrai, c'est vrai. Eh ben justement, Mourad, on aborde allez, le dernier dossier de cette émission.
Time Sport, le mode pressing.
On t'a pas fait réagir justement concernant ces Marocains face à l'Afrique du Sud ce soir à 21h. Mourad, on t'écoute, c'est la large page de cette émission.
Non, je rejoins justement ce que disait Moha sur les attentes concernant le Maroc après un parcours exceptionnel en Coupe du Monde au Qatar. Là aujourd'hui, on les attend en tournant. Moi, j'ai plus d'attentes concernant Walid Regragui, puisque au Qatar, moi, je comprends qu'il puisse avoir évolué en transition, en compte, parce qu'il a frotté des mastodontes justement du football mondial, la Belgique, l'Espagne, le Portugal, et j'en passe. Et donc là, on est sur une autre compétition.
justement qui s'assoit sur tous les critères aujourd'hui du classique du football, c'est-à-dire la possession, les expected goals, les statuts, les joueurs stars, etc. Là, on est sur une autre configuration où il va devoir faire le jeu face à des équipes peut-être un peu moins, on va dire, des équipes moindres, mais avec tout le respect que j'ai pour ces équipes, comme la Zambie, comme la Tanzanie, où ils vont devoir faire le jeu. Et j'ai l'impression que le Maroc a su justement faire prendre le tournant justement de entre évoluer en contre et faire le jeu. Et ça se passe plus ou moins correctement, puisqu'ils sont sortis des poules. Et là, je pense que c'est une autre compétition qui commence pour les hommes de Walid Regragui. Et au fur et à mesure, ils ont acquis de l'expérience, ils ont des cadres qui sont bien installés. Justement, Hakim Ziyech qui marque ben, le dernier match, c'était face à la Zambie, pardon, Zambie. Où il marque. Donc les cadres sont présents. Ils ont aussi un banc assez étoffé avec des joueurs de qualité. Mais par contre, là où je suis pas d'accord avec Benji, c'est que je vois pas du tout l'Afrique du Sud évoluer bloc bas. Parce que l'Afrique du Sud, c'est une équipe joueuse.
Ouais.
80% de son équipe, c'est les Mamelodi Sundowns, pour ceux qui s'intéressent un peu au football africain. C'est une équipe basée sur la possession, basée sur la vitesse. Il y a Persito, qui est leur fer de lance, qui évolue à Ali du Caire, qui pose beaucoup de problèmes en défense. Donc voilà, et puis il y a un entraîneur chevronné, Ryan l'a mentionné, c'est Hugo Broos, le Belge, qui a gagné la Coupe d'Afrique des Nations avec le Cameroun en 2017. Donc moi, je vois totalement un scénario tout à fait atypique, où justement l'Afrique du Sud va regarder le Maroc droit dans les yeux, et le Maroc va commencer à sortir de, on va dire, de sa zone de confort pour pouvoir faire le jeu. Donc ça va, je pense que ça va donner un match avec des buts. Et c'est là qu'on va voir le vrai Maroc, pour moi. Ou pas.
Mais en fait,
je suis d'accord avec Bilal, ou ça va être un match piège.
Moi, je suis d'accord avec toi.
Allez, d'accord avec Mourad.
Mais le principe, pour moi, je suis d'accord qu'ils vont avoir la volonté de le faire. Après, je suis pas sûr que dans l'exécution, ils y arrivent. Et je m'explique parce que je trouve que, justement, comme tu l'as très bien dit, en début de CAN, on disait justement que le Maroc était peut-être l'équipe qui était favorite. Si on devait en dégager un seul, même si c'était très compliqué, on disait que c'était très condensé en termes de niveau. Si on devait en dégager un, ce serait eux, via leur demi-finale de Coupe du Monde, par définition. Mais au-delà de ça, peut-être parce que c'était la seule équipe capable de pouvoir aussi bien évoluer en transition qu'en avec la gestion de la balle. Et pour moi, ce qu'ils font depuis le début, en gardant ce ballon, en ayant la possession, en créant des espaces avec des ailiers qui permettent avec les milieux qui permettent avec les ailiers, pour moi, c'est ce qui peut leur permettre justement de poser le plus de problèmes à l'Afrique du Sud. Et ils en ont conscience que l'Afrique du Sud est une équipe joueuse. Et c'est pour ça que je pense que pour moi, ils vont vouloir conserver ce ballon.
Tu parlais de l'Afrique du Sud bloc bas, c'est pour ça que.
Oui, mais je pense qu'ils vont devoir se retrouver dans cette situation.
Quand on regarde le premier match,
je pense qu'ils vont essayer de mettre un gros pressing, une grosse intensité. Ouais, et qu'au final, ils vont se retrouver à devoir reculer et à évoluer par défaut dans cette situation, dans le sens où c'est le Maroc qui va essayer de mettre leur empreinte. Après, peut-être que justement, ils vont me faire mentir, ils vont réussir à le faire, et dans ces cas-là, on aura une super confrontation qui va se battre pour avoir le ballon, pour avoir le milieu de terrain, et on va avoir une rencontre absolument géniale à suivre techniquement et tactiquement.
Après, ils ont changé leur fusil d'épaule, hein, parce qu'il y a un entraîneur chevronné,
exactement,
Broos, et c'était le Maroc, le Cameroun de 2017. Donc voilà, je pense qu'il a plusieurs schémas tactiques, et c'est justement là où j'attendais Walid Regragui, bah c'était justement sur ce changement de stratégie, ce changement de système de jeu qu'il a très bien fait jusqu'à présent.
100%.
Maintenant, est-ce qu'il va pouvoir aller au bout? Ben, va falloir gagner contre l'Afrique du Sud ce soir.
Mourad qui répond à Mourad ce soir.
Je suis totalement d'accord avec toi. C'est un problème qu'il avait rencontré au Qatar face à l'équipe de France.
Exactement.
L'équipe de France qui lui a posé ce problème-là de vas-y Walid, fais le jeu maintenant. On va pas s'adapter parce que l'équipe de France depuis 2018 c'est bloc bas.
Ah oui, non, mais c'est horrible.
Avec des flèches.
Ah, mais le Maroc joue avec la France lors de la finale de Coupe du Monde. Il n'y a aucun souci à le dire,
mais
et que quelqu'un vienne me dire le contraire en face.
Alors c'était peut-être sa plus grosse erreur justement d'avoir fait le jeu face à l'équipe de France. Je pense que, et surtout en Coupe d'Afrique des Nations, peut-être que la plus grosse erreur des entraîneurs c'est de vouloir imposer leur jeu. L'équipe nationale d'Algérie, notamment de Belmadi, où je ne comprends pas,
en cas d'honneur,
Djamel Belmadi impose un système de possession. Voilà. Est-ce que le système de possession n'est pas forcément le plus payant? Je pense qu'il est assez chevronné pour comprendre que la Coupe d'Afrique des Nations, c'est pas celui qui garde le plus le ballon qui gagne, bah c'est celui qui fait le plus mal, c'est celui qui est en meilleure condition physique, c'est celui qui a les transitions les plus rapides. Exactement. C'est celui qui est plus tueur devant le but, mais après, c'est tout sauf la possession.
Ouais. Après, c'est ça, je pense.
Surtout
que...
la possession stérile.
Alors, je pense que Ryan, c'est à ce moment-là aussi où on va voir si Walid Regragui est un bon entraîneur ou pas.
C'est à ce moment-là, c'est comme ce genre de. C'est de nation, en fait. Je pense qu'il a déjà prouvé.
Non, mais
je pense que quelques ajustements, il a l'effectif pour. En passant le premier tour, je pense qu'il a évité le piège. Mais là, on est sur un match éliminatoire.
Ouais, mais personne n'est.
Je pense que c'est un gros point d'interrogation en Afrique du Sud.
Aucune compétence n'est acquise. C'est-à-dire que Walid Regragui l'a encore approuvé aujourd'hui. Il n'y a aucun entraîneur qui n'a rien à prouver, pour ma part en tout cas.
C'est une perpétuelle remise en question.
C'est pour ça.
À chaque match, il faut se renouveler, il faut répondre présent.
Mais c'est pour ça que je te dis qu'effectivement, tu vois, toi-même, tu le réponds par tes arguments. C'est le football va très très vite. Donc tu dois systématiquement t'adapter en fait à chaque situation. Et là, Walid Regragui, je pense que.
En fait, il y a la remise en question et ne pas avoir la culture de l'instant. Je pense que Walid Regragui, on peut quand même lui donner le crédit qu'il a quand même assez prouvé et que c'était un grand tacticien.
Il a prouvé, mais pas en tout cas pas pendant les Coupes d'Afrique. Je trouve que voilà. Je pense que on est en train de s'arrêter uniquement sur sa Coupe du Monde 2022.
Bah, il a fait que ça comme compétition.
C'est quand même un histoire du dernier carré de la Coupe du Monde.
Les amis, n'allez pas aussi loin. Je veux dire, j'ai pas dit non plus que c'était pas ouf ce qu'il a fait.
On n'est pas dans l'hémicycle de l'Assemblée. On va laisser ça à notre premier ministre.
Ce que je dis, c'est que c'est une autre compétition, c'est une autre ambiance, et que pour ma part en tout cas ce sera un match à haute intensité, et pour le coup là ça va lui donner du crédit à Walid Regragui, parce que pour moi encore une fois, et ça ne reste que mon avis, il n'a encore rien prouvé.
Moi je voulais répondre, c'est qu'on a parlé de possession, on a dit évidemment que la possession ne faisait pas gagner, c'est une évidence, et on a commencé à remettre Belmadi sur le plateau en parlant que la possession ne l'a pas fait gagner, c'est une évidence. Mais si je peux juste me permettre un petit mot, c'est que la possession de Regragui n'est pas la même que celle de Belmadi, et c'est pour ça
c'est pas la même chose. Je parlais de possession stérile.
Exactement. De possession U qui n'avance pas et qui ne font pas avancer le bloc et qui au final épuisent limite plus tes joueurs que les joueurs adverses.
Ouais.
Et c'est là où Regragui pour moi est capable de faire la différence, et là où il a déjà prouvé contrairement à ce qu'a dit Ryan, c'est que justement lui il est capable d'avoir une possession qui est vivante, une possession qui même si elle n'est pas majoritaire comme a pu l'être à 75% celle de l'Algérie face à la Mauritanie quand on connaît les stats. Même s'il te fait une possession à 60-65%, c'est une possession qui est vivante, c'est une possession qui va te créer des espaces et qui a pour but justement de créer des espaces dans les défenses adverses en les faisant décaler, en essayant de trouver l'espace. Et en fait, c'est un mélange entre un jeu de possession qui est lente au milieu de terrain et qui va t'accélérer par à-coup en trouvant des espaces, et c'est ce que fait pas du tout la position de Belmadi, qui est une position stérile qui va se finir par un centre lointain. Et en fait c'est ça où la différence, où il doit beaucoup plus se poser sur ce jeu-là face à l'Afrique du Sud, c'est justement sur les latéraux. Les latéraux vont être cruciaux sur le match face à l'Afrique du Sud quand on est le Maroc, dans le sens où si justement tu as une possession qui est importante mais qui n'est pas stérile, les espaces les plus importants vont être sur les côtés.
La chance qu'a Regragui contrairement à Belmadi.
Oui, moi.
Belmadi, il pensait avoir, je pense, Xavi et Iniesta au milieu de terrain.
Ouais,
il avait sûrement les plus grands criminels de la prison.
Mais non.
C'est des tueurs les milieux de terrain d'Algérie, mais pas dans le bon sens. Ouais.
Je pense que
tu vas être content pour Marseille. Unai, c'est un des meilleurs milieux de terrain au monde, quand même. Parce que là, Unai, techniquement, la ressortie de balle, c'est violent.
Est-ce qu'on peut lancer la pub?
Vas-y, Yacine, il y a quelques temps, il a des produits qui font la colonne vertébrale de son équipe qui sortent de l'académie Mohamed V. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir été, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'il n'a rien prouvé, il a prouvé déjà au Wydad. C'était déjà quelqu'un là-bas et il connaît très bien le football africain. Là, il sort, il en sort qui est le même. Il connaît très bien le football africain. Ouais. Il est dans la continuité. Il a les mêmes joueurs qu'il avait, la même colonne vertébrale qu'il avait à la Coupe du Monde. Donc, il n'est pas trop en difficulté. Je ne le vois vraiment pas se défiler face à l'Afrique du Sud.
Et après, il faut voir si les joueurs sont capables de switcher, se mettre en mode canne. C'est juste ça le point d'interrogation. Le travail de Regragui est incroyable. Après, bien sûr, on peut parler de la formation marocaine, de l'Académie Mohamed V.
On pourra en parler.
Il y a d'autres pays aussi qui forment. Il y a le Sénégal, mais c'est d'autres stratégies. Le Sénégal s'appuie sur des académies. Academy, qui sont des, on va dire, des antichambres pour des clubs de Ligue 1. C'est pas forcément ma vision de l'essor du football africain, mais bon, passons, c'est bénéfique pour l'équipe nationale. Le Maroc s'est axé sur le développement du championnat. Mm-hmm. Ça, j'aime beaucoup. Et l'Algérie aussi, hein, même si l'Algérie, c'est l'arbre qui cache la forêt avec l'Académie du Paradou. Mais si on cite les joueurs qui sont sortis, c'est quand même pas mal. C'est Hicham Boudaoui, c'est Rami Ben Sebaini, c'est Youssef Attal, sans compter les quadrilles, les organes, etc., qui aujourd'hui, l'Algérie ne fait rien, mais qui sort quand même des joueurs assez intéressants juste à travers cette Académie du Paradou. Donc voilà, c'est des visions différentes.
On termine
bien
sur
sûr,
le
mais après, il faut... Il faut pas simplement s'attarder sur la compétition des équipes fagnons, notamment les équipes nationales A, pour voir ce qui est fait de positif ou négatif dans le football africain. L'Égypte, par exemple, a marché sur le football africain. Ils ont 7 CAN, même s'ils ont pris des CAN à l'époque de Ramsès II. Mais
mais
dans les années 2000,
tout en ramenant tout le monde de Rigoé compte aussi.
Donc voilà, donc c'est des cycles et voilà, il faut travailler. Comme l'a dit Ryan, c'est une perpétuelle remise en question.
Merci Mourad, on va revenir concernant dans le pronostic qui opposera ces deux équipes, ces deux nations, le Maroc, les Lions l'Atlas face justement à l'Afrique du Sud. Et oui, le Bafana Bafana, hein, dans ce match 21h en Côte d'Ivoire. Mais on va s'attarder cette fois-ci sur le football anglais. 22e journée en Première Ligue au The City Ground du côté de Nottingham Forest, c'est bien ça, qui rencontre les Gunners d'un certain Arteta. Arteta qui se veut justement reconquérant, revanchard peut-être sur cette seconde partie de saison. Il y va et il veut justement y croire. D'ailleurs, Mourad Arteta. D'ailleurs vas-y,
en parlant d'Arsenal, je trouve qu'il y a un joueur très surcoté, moi, Arsenal.
Ah, surcoté. Toi, il n'y a que des surcotés.
Bukayo Saka. Je le trouve Saka, assez surcoté. Même sur sa valeur marchande, je trouve que c'est hallucinant de voir qu'un joueur de ce calibre. Je ne dis pas qu'il est mauvais, hein, je trouve que c'est un peu trop, voilà, son 150 millions, sa valeur marchande, je trouve que c'est un peu trop, surtout quand on voit les joueurs qu'il a juste devant lui, des Erling Haaland, des Mbappé, des Vinicius. Pour ma part, en tout cas, il n'est pas encore à cette table-là, en tout cas.
C'est parce qu'il est anglais. Hein. Parce qu'il est anglais.
Parce qu'il est anglais, selon toi.
C'est quelque chose qu'on retrouve aussi à Arsenal avec Benji.
Exactement.
Declan Rice, c'est pas le meilleur 6 du monde, mais... C'est, il coûte tout l'effectif d'une équipe de Ligue 1 à lui tout seul. Mais Arteta, pour revenir sur lui, qui a été annoncé
Arteta
sur le départ
Arsenal,
par beaucoup de médias.
Un gros changement à l'époque, au mercato estival.
À ce qui paraît,
nous annonce,
mais il a
en tout cas. Des entraîneurs.
Il a renié cette information, il a créé à la fake news. Je ne pense pas voir Arteta dans un autre club qu'Arsenal. Peut-être hypothétiquement le Barça de Xavi, du coup, qui va se retrouver sans entraîneur à la fin de cette saison.
Le Paris Saint-Germain?
Jamais de la vie.
C'est pas connu le Paris Saint-Germain en plus.
Je veux pas reprendre c'est fini.
Bah oui,
et de toute façon, c'est un projet à long terme à Paris.
Ils parlent de Henrique qui pourrait retourner au Barça aussi.
Bah c'est ça.
Une vraie
valse
d'entraîneur qui peut être super intéressante.
Et moi, au milieu de terrain de l'Algérie.
Exactement. T'es appelé, t'es convoqué.
Pourquoi? Je suis un bon 6, les gars. Non, pas ce point.
Alors.
Non, juste pour terminer sur Arteta, revanchard, Bilal, je pense pas aller jusqu'à ce point-là parce que là, il a un gros morceau sur sa route, Arteta. Il a Jurgen Klopp qui a annoncé son départ en plein milieu de la saison. À faire ça pour Jurgen Klopp, je pense, c'est dire à toute son équipe, on va à la guerre jusqu'à la fin. Je vois pas Jurgen Klopp finir sa carrière.
Il y avait 5 points d'avance en plus, ils ont 5 points d'avance actuellement.
Mais Jurgen Klopp va jamais partir sans un titre et je pense pas qu'il va partir sans la première ligue. Donc c'est pas Arteta et
Mourad et Benji d'accord avec Moha ce soir.
Après, il a fait du très bon boulot depuis qu'il arrive à Arsenal quand même. Au bout d'un moment, moi Arteta, j'avoue qu'il a sublimé l'équipe. C'est du très beau football. C'est du football en plus de ça qui a des résultats et qui te permet de créer une vraie dynamique et une identité à un club qui en manque depuis quelques années. C'est aussi vrai. Et je parle sous le contrôle de toi qui est un fan Mourad de
Arsenal. Je pense que vous avez tout dit. Je pense que pour le poste justement d'entraîneur du Arsenal Football Club, je pense que c'est comme Gérard Depardieu dans Le plus beau métier du monde. Je pense que le poste d'entraîneur à Arsenal, c'est le plus beau métier du monde. T'as pas forcément le plus de pression au monde, t'as du budget, t'évolues peut-être dans un des plus beaux stades d'Europe. T'as quand même un bon effectif à disposition. T'as un bon centre de formation. Les infrastructures sont incroyables. Les fans sont sympas. La pression médiatique n'est pas énorme. Donc c'est un CD, le CDI qu'on aimerait tous avoir, le poste d'Arteta.
C'est ça.
Après, moi j'aimerais bien. Il a commencé un projet. Il parle de trust de process. Je pense que le process dure depuis un peu trop longtemps. Pour c'est moi, un process, à un moment donné, il faut qu'il ait une fin. Ils l'ont en place depuis 2019. Il y a eu cette rumeur du côté du FC Barcelone. Bien sûr que c'est une fake news. D'ailleurs, si justement les entraîneurs du football européen était sans langue de bois comme Mikel Arteta, je pense que ça couperait les jambes à beaucoup d'insiders et ça mettrait fin à beaucoup de rumeurs. Donc il a tué dans l'œuf la rumeur d'un potentiel move vers le FC Barcelone. Mais voilà, après Arsenal, c'est des histoires qui se répètent. C'est la FA Cup. C'est trois FA Cup sur ces 10 dernières années. Aujourd'hui, ce qui est visé, ce qui en attend du côté des fans, c'est plus
ligue,
la première ligue. Et c'est ce pourquoi Arteta a été recruté, c'était pour mettre en place un process pour
l'entier,
Manchester City, Liverpool, etc.
C'était pas loin.
C'est un grand terme. Je veux pas aller jusque ce point-là. Mais Mourad, tu me diras que quand ils perdent Saliba, c'est la fin de leur saison. Et ça, c'est grave.
Bien sûr.
Parce qu'ils perdent pas.
Bien sûr, non, je suis entièrement d'accord. C'était un des tournants de la saison. Après, l'autre tournant, c'était justement en attente de la double confrontation face à Manchester City. On sait très bien, quand on voit la qualité de l'effectif, quand on voit le jeu mis en place par Guardiola, qu'en aller-retour, forcément, Manchester City allait prendre le dessus. Moi, je voyais pas justement Arsenal ou qui manquait le leader. Par exemple, l'intronisation de Declan Rice, je pense qu'elle a été positive. Pense que Moha, lorsqu'il juge Declan Rice, je pense que justement il le sous-évalue un peu, parce qu'on est tous tombés dans ce piège qui consiste à dire que le football anglais, le joueur anglais est surcoté. Or, il est surcoté d'un point de vue pécunier, parce que le football anglais est une économie circulaire. C'est le marché, la réalité du football anglais n'est pas celle du marché du football français, par exemple, parce que ce ne sont pas les mêmes droits télé, parce que c'est pas la même devise, parce que c'est pas les mêmes enjeux de sponsoring. Donc, c'est tout à fait normal qu'un Bukayo Saka, par exemple, coûte une fois et demi plus cher que son potentiel vis-à-vis de Ligue 1, par exemple.
Oui, parce que les transferts entre clubs anglais sont libres.
120 livres, ça revient à combien en euros? À peu près 100 millions, un peu plus, un peu moins.
Oui, en fait, une livre égale 1,30€ environ.
Mais du coup, quand même, pour 100 millions, c'est violent quand même, Declan Rice. Alors qu'il y avait mieux.
Franchement,
au poste de 6, il n'y avait pas beaucoup, je mets au-dessus. Merci, messieurs. On va voir les.
Je pense que c'est la meilleure recrue d'Arsenal.
Les pronostics, Le Maroc face justement à l'Afrique du Sud. Pronostic avec allez, Ryan, rapidement.
Moi, je vois un 2-1 pour l'Afrique du Sud.
2-1 pour l'Afrique du Sud, selon Ryan. Benji.
3-1 pour le Maroc avec un but en fin de jeu avec une équipe de l'Afrique du Sud qui essaie de se découvrir pour remonter.
Maroc, Afrique du Sud, Moha.
3-0 et carton rouge pour Regragui.
Aïe. Et pour Mourad, Maroc, Afrique du Sud, Mourad.
Moi, je vois bien des buts des deux côtés, mais une victoire marocaine.
Victoire marocaine. Eh ben, on verra bien ce match-là et on en débriefera dès demain avec vous, chers auditeurs et auditrices de Beurre FM. La suite des programmes avec Vanessa qui arrive jusqu'à 23h. Bye bye.
Retrouvez Time Foot spécial Cannes 2024 tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.